queridos pueblos indígenas, que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón y la reconciliación.
Déjà dans les garderies, il y a plein de Covid en circulation. Bon, peut-être faire vacciner les enfants dès maintenant.
Bon début de semaine, tout le monde. Bonne fin de journée. Le pape François s'est officiellement excusé aux peuples autochtones chez eux, en sol canadien aujourd'hui, là où il y a des milliers de leurs membres qui ont subi des sévices par des représentants de l'Église catholique. Donc, des excuses moins de 24 heures après son arrivée au Canada. Ces excuses ont été formulées haut et fort lors d'un discours public sur le site d'un ancien pensionnat autochtone en Alberta.
Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
Alors oui, c'est un moment historique dont on va parler avec mes invités ce soir, notre collaborateur Alexis Wouen-Olouat qui est avec nous. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Michel.
Et le spécialiste en actualité religieuse Alain Pronkin. Bonsoir Alain.
Bonsoir Michel.
Je vais commencer Alain avec bien sûr une réaction. On voulait t'entendre Alexis sur ces excuses qui ont été prononcées aujourd'hui, quand même avec des mots forts. Qu'est-ce que t'en as passé?
Bien... je suis quand même mitigé. D'un côté, le petit-fils de la grand-mère qui était très catholique et qui défendait les Abénakis est content de voir quand même une certaine reconnaissance. Mm-hmm. De l'autre côté, de voir le pape dire que c'est ses enfants et non l'Église, qu'elle a juste coopéré, qui n'est pas à l'origine de la théorie de la découverte, de la colonisation. C'est, je trouve qu'il y a encore un peu du dégagement, un peu de responsabilité par rapport à la vraie responsabilité de l'Église. Si on parle de la théorie de la découverte, c'est quand même une bulle papale qui a été mise en place pour séparer le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal à l'époque, qui est à l'origine de toute cette théorie-là qui fait en sorte qu'on pense mm-hmm. que les peuples autochtones étaient inférieurs.
On a quand même, quand je disais des mots forts, il y a de nombreux... le pape disait de nombreux membres de l'Église ont coopéré à ces projets de destruction culturelle, d'assimilation. Mm-hmm. Qu'est-ce qui manquait dans ses excuses aujourd'hui pour que, justement, tu dis que tu es mitigé, mais que tu sois entièrement satisfait?
De dire que l'Église s'excuse. Pas juste que l'Église s'excuse pour ses membres qui ont mm-hmm. participé à ça. Parce que l'Église était au centre de cette volonté colonisatrice-là.
Il n'y avait pas de terme qui... En fait, il n'y a pas condamné l'Église, là.
Non.
Ça, tu aurais voulu ça?
Bien, j'aurais voulu que l'Église, en tant qu'institution, s'excuse. Lui, il est chef de cette institution-là. Mm-hmm. Tant qu'à moi, il aurait dû prendre la responsabilité qui est la sienne et s'excuser au nom de l'Église.
Et il n'y a pas eu les mots « abus sexuels » non plus qui ont été prononcés. Est-ce que ça t'a surpris?
Bien, c'est tasser encore un peu oui. et du colorer la réalité, peut-être.
Alain, d'abord, votre réaction à ses propos aujourd'hui. Est-ce qu'il est allé assez loin?
Non, c'est simplement le premier pas. Et lui-même le dit, il dit « Je commence en m'excusant ». Il l'avait fait à Rome, mais à Rome, c'est dans un décor feutré, avec plein de marbre. Tandis que là, il le fait devant 2000 victimes qui ont survécu au pensionnat. Et là, le pape, c'est uniquement le premier pas, il le dit lui-même. Parce que quel est le deuxième pas? Quel est le véritable engagement qui s'en vient à la marche avec les Premières Nations? C'est les archives. Il va falloir ouvrir les archives pour vraiment aller au fond des choses. Parce qu'il faut le reconnaître, depuis 1511, t'as des prêtres au sein de l'Église catholique, et ça, c'est avant le Canada, qui dénoncent le traitement qu'on fait aux Premières Nations en Amérique. C'est pas d'hier. Puis on oublie aussi, en 1922, il y a eu un rapport d'un médecin qui a dit « C'est effrayant ce qui se passe dans les pensionnats. » Donc, le pape, l'Église ne peut pas arriver en disant « Bon, on ignore ce côté-là. »
Alors, ouvrir les archives, ce serait d'aller de la parole aux actes.
De la parole aux actes. C'est ça qui est important. Si on n'ouvre pas les archives, les excuses, c'est bien, mais ça va passer comme un coup d'épée dans l'eau.
Et c'est ce que veut également plusieurs communautés autochtones. Ça permettrait de savoir, de
oui, connaître. Parce que la vérité, pour guérir, ça va être essentiel. Les archives, c'est un élément important. Je pense que aussi, pour en arriver à une vraie guérison, il va falloir parler de restitution. Restitution des artefacts qui sont trouvés à Tikan, restitution des artefacts qui ont été pris par l'Église. Et j'espère aussi que le fonds de 25 millions qu'on réclame à l'Église catholique, on va en entendre parler, puis que ça ne sera pas juste des paroles, ça va être des gestes concrets.
Oui. Mais il y a juste là-dessus, Alexis, il n'y a pas juste 25 millions. Il y a aussi un autre 35 millions. Il y a eu un jugement des tribunaux en Saskatchewan qui disait à l'Église, bien, vous n'avez peut-être pas à payer cette somme-là. Il ne faut pas oublier cette somme-là. On parle plus de 50 à 60 millions.
Peu importe les montants, moi, j'espère que l'Église va mettre la main dans sa poche puis va aussi mettre de l'argent sur la table.
Il y a d'autres rencontres avec des communautés autochtones d'ailleurs au pays qui sont prévues pour le pape. Est-ce qu'on doit s'attendre à le même genre d'excuses où on peut penser que le discours va évoluer, s'adapter?
Le discours n'a pas le choix d'évoluer. Parce que du côté des Inuits, quand ils volaient à Iqaluit, qu'est-ce qu'on demande? On dit le père Rivoire qui a agressé sexuellement des enfants, on veut qu'il subisse son procès ici, au Canada. Et d'ailleurs, juste dans le journal Le Monde, la caricature, c'est ça. C'est le pape qui demande au père Rivoire d'aller au Canada. Et ça, c'est des crimes sexuels. Fait que le pape n'a pas le choix comme on dit, de changer le discours, de faire évoluer son discours à ce niveau-là. Mais il y a deux grands moments. Demain, pendant la messe, qu'est-ce qu'il va dire à l'Évangile? Et surtout dans son homélie. Et après ça, qu'est-ce qu'il va faire au Québec, à Sainte-Anne?
Et étant donné qu'il a dit que c'était une étape, est-ce que vous attendez que d'ici la fin de son voyage, il annonce des gestes concrets de la part de l'Église catholique?
Il n'a pas le choix. Il doit le faire. Et il va le faire.
Sinon, ce ne sera pas un succès.
Ça ne sera pas un succès. Il va le faire devant tous les évêques, parce que c'est certain que tous les évêques du Québec vont être présents à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et c'est là où il va dire, bien, écoutez, il faut faire ci, il faut faire ça, puis il faut évoluer. Je suis convaincu que le sermon, un peu comme il a fait en Espagne, quand il s'est rendu compte qu'on lui mentait depuis longtemps, tous les évêques espagnols ont offert leur démission. Ont offert leur démission. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait un sermon assez important au Québec. Parce que, regarde, simplement au niveau du cardinal Ouellet, qui utilisait le mot indifférence, il dit l'Église était indifférente au peuple autochtone. Le pape a repris cette expression-là. Il dit l'indifférence, ça tue plus que toute autre chose.
Mais somme toute, des excuses comme celle-là, c'est quand même une avancée.
Oui, c'est une avancée.
Il y a des gens qui n'auraient jamais cru voir ça ou entendre ça de leur vivant.
Parce que
c'est une avancée pour l'Église catholique.
Oui,
c'est énorme le pas qui a été fait là. Mais on comprend, il doit aller plus loin, parce qu'on va voir cette semaine. Mais est-ce que tu peux dire, en terminant, Alexis, que c'est quand même ce que ça prend pour amorcer ou poursuivre le processus de guérison?
Le processus de guérison est amorcé depuis longtemps par les communautés elles-mêmes, par les individus elles-mêmes. On n'a pas attendu le pape, on n'a pas attendu les gouvernements pour amorcer le processus de guérison. Là, ce processus-là, c'est un processus plus large qui va peut-être aider la population en général à embarquer dans ce processus-là.
Je suis convaincu que vous allez suivre et écouter les prochains discours du pape cette semaine. On va vous retrouver un peu plus tard cette semaine au fil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci, allez, Michel.
Les enfants de 6 mois à 4 ans peuvent depuis aujourd'hui se faire vacciner contre la COVID-19 dans différents centres à travers le Québec. Au cours des dernières semaines, Santé Canada a approuvé la vaccination pour cette dernière tranche d'âge de la population. On va joindre Sabrina Rivet qui se trouve dans près d'un centre de vaccination dans le quartier Pointe-Saint-Charles, si je ne me trompe pas. Salut Sabrina. Sabrina?
Salut Michel. Salut Michel.
Est-ce que c'est achalandé où tu te trouves? Comment ça se passe?
Mais là, c'est ça. Donc, tu l'as dit, je suis au centre de vaccination à Pointe-Saint-Charles. Et ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est que 50 % des rendez-vous qui ont été pris dans ce centre de vaccination étaient pour des enfants. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, il y aura environ une trentaine de tout-petits qui auront reçu leur première dose de vaccin de la COVID-19 parce que, tu l'as dit, ça a commencé aujourd'hui. Donc, le Québec qui a reçu environ 70 000 doses du vaccin pour être en mesure de vacciner donc les tout-petits, donc de 6 mois à 4 ans, donc tous les enfants, en fait, pratiquement, qui sont en bas de 5 ans. Et ici, donc, au sud du centre-sud de l'île de Montréal, bien, il y a deux sites de vaccination. Donc, celui où je me trouve, à Pointe-Saint-Charles, et également celui à Berry, centre-sud. Et évidemment, bien, on le sait quand même, on en parle beaucoup, si jamais il y a des parents qui veulent faire vacciner ou non leurs enfants, on va aller écouter des réactions.
C'est le premier vaccin pour elle. Toutes les familles avaient les vaccins. Je suis heureux.
Bien, on attendait que le vaccin soit disponible pour les enfants, justement. C'est l'immunité collective, fait qu'il n'y avait pas de questions à se poser. On a pris rendez-vous, puis on était chanceux, on l'a eu aujourd'hui.
Est-ce que ça t'a fait de bobo, le vaccin?
Non,
hein?
Et on essaye de rendre le décor un petit peu plus accueillant. Là. On sait que des fois, ça peut être intimidant pour les enfants de venir dans une clinique de vaccination comme ça, où il y a beaucoup de cubicules, mais ça se passe très bien.
On a entendu des parents, Sabrina, et il y en a plusieurs qui refusent ou qui hésitent beaucoup à faire vacciner leur enfant.
Oui, bien, en fait, je vais vous présenter un tableau. Il y a 16 % des parents qui sont indécis. Ça, c'est selon un sondage qui a été dévoilé à la mi-juillet par l'INSPQ. On remarque également qu'il y a 44 % des parents qui aimeraient faire vacciner leurs enfants et 40 % qui ne voudraient pas. Et là-dessus, bon, on peut aller écouter Nima Machouf.
C'est quand même une protection qui évite pas l'infection, mais qui fait en sorte que la maladie sera beaucoup moins grave et on aura probablement beaucoup moins d'hospitalisations. Les enfants, normalement, à cet âge-là, ne sont pas très, très gravement atteints. Mais quand ils le sont, c'est dangereux.
Merci beaucoup, Sabrina. Ça
fait plaisir.
Hockey Canada a dévoilé aujourd'hui un plan d'action pour lutter contre les comportements toxiques, alors que la Fédération est critiquée pour sa gestion d'un présumé viol collectif impliquant des joueurs en 2018. Le plan prévoit notamment une réforme du code de conduite, la révision de systèmes de signalement et de suivi des plaintes et davantage de formation et de sensibilisation. Ce qui devait être un week-end de détente et de plaisir pour bien des gens, plutôt tourné au drame pour 5 familles au Québec. D'abord, il y a une adolescente de 14 ans qui s'est noyée vendredi au Super Aqua Club de Pointe-Calumet. Le même soir, il y a un Rimouskois de 28 ans qui a perdu la vie dans un lac des Laurentides. Scénario semblable pour un homme de 43 ans à la plage du Sablon en Montérégie et pour un nageur de 49 ans qui s'est noyé, lui, dans la rivière Batiscan en Mauricie. Et puis, cette nuit, là, en fait, il y a un homme de 21 ans qui a été retrouvé inanimé dans une piscine du secteur Anjou à Montréal. Alors, vraiment, des dernières heures dramatiques. Le directeur général de la Société de sauvetage, Renald Hawkins, est avec nous. Bonsoir, M. Hawkins.
Bonsoir à vous.
Bon, c'est vraiment un week-end dramatique. Dites-moi, ce qui est frappant dans ces cas-là dont je viens de parler, il y a beaucoup d'adultes ou de jeunes adultes. Est-ce que c'est surprenant?
Oui et non. Souvent, on associe la noyade avec les jeunes enfants de 0 à 5 ans parce que par 100 000 de population, on a un des taux les plus importants au Canada. Puis par la suite, je vais aller à l'autre extrémité, les personnes plus âgées de 50 ans et plus qui, elles, ces personnes-là, disent « Mais il ne m'est jamais rien arrivé depuis 30 ans, pourquoi ça m'arriverait aujourd'hui? » Là, en fonction des groupes d'âge que vous avez mentionnés, c'est moins courant, mais il y a un lien commun avec la majorité des noyades. C'est que, selon les proches, ces personnes-là ne savaient pas nager ou à tout le moins pas nécessairement des nageurs aguerris. Et ça, pour moi, ça m'interpelle beaucoup.
Est-ce que vous constatez qu'il y a... Est-ce que dans la population, il y a moins de gens qui savent nager qu'avant, par exemple?
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des cultures dans les nouveaux arrivants que ça ne fait pas partie de leurs habitudes de vie. Moi, je le vois là, avec le programme Nager pour survivre dans les écoles primaires. Souvent, c'est la première fois que les enfants ont un contact avec un lieu de baignade. La bonne nouvelle, c'est qu'ils reviennent à la piscine par la suite. Donc, nécessairement, il va falloir leur inculquer ça dès le jeune âge, qu'avec la réalité de nos lacs, de nos cours d'eau, nos plans d'eau naturels et je ne sais plus combien de piscines résidentielles, il faut apprendre à nager si on veut assurer notre propre survie aquatique. Là.
Oui, parce que le cours de la natation, c'est une initiation en même temps, oui, à la natation, à apprendre à nager, tous les sports aquatiques, et ça crée une vigilance complètement différente et une capacité d'intervenir également pour aider les gens.
Oui, oui, absolument. Puis de faire prendre conscience qu'on a une certaine limite. Là. Vous savez, lorsqu'on pose la question aux gens s'ils savent nager, je vous dis que la majorité disent oui. OK, oui. Puis on l'a vu, là, justement, selon les reportages, que ça aurait été le cas dans le Super Aqua Club. Mais il reste qu'on surestime notre capacité de savoir nager. Souvent, je dis qu'on sait plus se baigner que de savoir nager.
C'est pas parce qu'on sait nager qu'on voit un lac qui nous paraît pas très large, dire on est capable de le traverser. Ça veut pas dire, ça se peut qu'en plein milieu du lac, on n'ait plus l'énergie. Il faut vraiment bien évaluer ça. C'est assez paradoxal qu'on vous invite aujourd'hui parce qu'on est la Journée mondiale de la prévention de la noyade. Qu'est-ce que vous tenez à rappeler aujourd'hui devant ce qui est survenu en fin de semaine?
C'est que, dans le fond, lorsque je regarde mes données depuis les dernières années, une fois sur deux, les gens étaient seuls. Peu importe le genre, peu importe l'âge, peu importe leur activité. Alors donc, au cours des deux dernières années, on a perdu environ 170 personnes. Bien, calculer la moitié, là, ça aurait pu être évité pour appeler le 911, faire des justement aider ces gens-là à être sauvés. Et naturellement, le port de la veste de flottaison. Là, on le voit, les gens sont en vacances, ils vont être sur l'eau, dans des bateaux, moindrement, il va faire beau. 20 fois On a des vies perdues par année au Québec parce qu'ils ne portaient pas ou ne portaient pas correctement leur veste de flottaison.
Et là, il faut se rappeler ça particulièrement pour les deux prochaines semaines. Il va y avoir beaucoup de gens sur les plans d'eau avec les vacances de la construction.
Oui, puis d'avoir ce concept de sauveteur désigné, surveillant désigné. Donc, on assume la responsabilité de surveillance de nos enfants.
Merci beaucoup, M. Hawkins.
Ça fait plaisir.
La crise des passeports semble se régler tranquillement afin de réduire les longues files d'attente. Il y a Service Canada qui a annoncé l'ouverture de 5 nouveaux bureaux de passeport au pays, dont un à Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île de Montréal. Il y a donc de nouveaux centres qui ont ouvert leurs portes en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Alors, oui, il y a les passeports, mais les retards, annulations, valises perdues, hein, les compagnies aériennes sont dépassées par l'afflux des voyageurs après 2 ans de pandémie, même si des compensations allant jusqu'à plusieurs milliers de dollars sont disponibles. Il y a peu de gens qui s'y intéressent parce que le processus est assez décourageant, comme nous le dit Emmanuel Lerounega.
En fait, on reçoit 5 fois plus de demandes qu'il y a peut-être un mois et demi. En termes de réclamations, que ce soit pour les bagages, que ce soit pour les retards, annulations et des journées, on a eu des pics là, qu'il y avait 54 % des vols, 56 % des vols qui étaient retardés ou annulés.
Depuis 2019, le règlement sur la protection des passagers aériens encadre les compensations que les compagnies doivent verser lorsque les vols sont annulés, retardés ou les bagages perdus. Par contre, ces compensations-là ne s'appliquent pas à chaque occasion.
Ce à quoi vous avez droit dépend du degré de contrôle exercé par la compagnie aérienne sur le retard ou l'annulation. La situation peut être ou bien attribuable à la compagnie aérienne, ou bien attribuable à la compagnie aérienne mais nécessaire par souci de sécurité, ou indépendante de la volonté de la compagnie aérienne.
La façon que le règlement a été rédigé, ça protège davantage les transporteurs que les passagers, même au niveau des bris mécaniques, par exemple. En Europe, bris mécaniques, c'est couvert, c'est entre les mains du transporteur. Au Canada, ça dépend si ça a été relevé à la maintenance, sinon ça donne pas le droit à une indemnisation. Mais pour le passager, monsieur, madame, tout le monde, comment voulez-vous qu'il sache si ça a été relevé à la maintenance ou pas? Souvent, on se fait répondre en disant « Ah oui, présentement, il y a une crise dans l'industrie aérienne, ça ne donne pas le droit à des indemnisations. » Ou l'équipage de bord a fait trop d'heures, question de sécurité, ça ne donne pas le droit à des indemnisations. Alors que c'est complètement faux.
Merci d'avoir appelé l'Office des transports du Canada.
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de la compagnie aérienne à votre plainte ou si vous ne recevez pas une réponse dans les 30 jours, vous pouvez présenter une plainte à l'Office de transport du Canada. La grande majorité des plaintes qu'on traite à l'Office, on se sert d'une procédure informelle. C'est un genre de médiation impliquant l'Office, le passager et la compagnie aérienne. Plus de 90 % de nos cas sont résolus par cette approche informelle.
S'ils doivent se rendre devant l'Office des transports, il y a 1 an et demi, 2 ans d'attente des fois pour des dossiers, même voire plus, ce qui fait que les gens se découragent. Combien de gens réclament vraiment? Combien de plaintes se fait vraiment à l'Office des transports? J'ai l'impression que c'est un petit pourcentage. C'est entre 5 et 10 % selon moi, de gens qui vont faire des démarches. Ce qui fait qu'ultimement, la conséquence n'est pas si grande que ça pour le transporteur.
Pas facile d'attirer de la main-d'œuvre dans le milieu de la santé. Alors, le CHUM espère donner la piqûre à des jeunes en ouvrant ses portes pour son académie d'été à 60 d'élèves. Les défis sont peut-être grands, mais les jeunes rencontrés par ma collègue Anaïs Elbouchdaini sont assez prêts pour relever le défi.
Oui, super. Donc, on vient de ventiler le patient. Donc, c'est sûr que pendant qu'on ventile, donc on lui donne de l'oxygène. On va faire ça au moins 3 minutes.
C'est des jeunes de 15 à 17 ans, donc secondaire 4 et 5, qui viennent effectivement vivre un programme d'immersion, un programme de formation d'immersion pour, en fait, démystifier les carrières, les différentes carrières, professions dans le domaine de la santé.
Puis après 2 ans de pandémie, on a vu un peu plus ce qui se passe dans le système de santé. Ça t'a pas découragé?
Non, au contraire, ça m'a motivé. Je me suis dit qu'on avait besoin de relève, puis je me suis dit qu'il y avait besoin de monde dynamique, puis de gens pour prendre, justement, pour prendre la relève puis pour venir apporter leur soutien le plus possible.
La pandémie n'aura pas dissuadé les jeunes à s'intéresser au métier de la santé. Preuve en est qu'il y a eu 300 applications partout au Québec et seulement 60 ont été retenues pour l'Académie cet été.
Les études le démontrent qu'un programme d'immersion tel que ce qu'on offre peut être un point tournant, en fait, là, dans le choix de carrière des académiciens, des élèves.
On avait seulement le droit de regarder sur l'écran.
Ah, ouais.
Ouais, voilà.
Est-ce que c'était difficile?
Ben, honnêtement, comme je suis droitière, c'était plus simple avec la droite. La gauche, ça a été beaucoup plus compliqué.
C'est plus difficile, mais une fois que ça fait un peu de temps, tu t'habitues, mais on n'est pas prête pour une opération. Ça, c'est
sûr. Exactement. Puis on a le privilège aussi, puis on est très heureux de ça, d'avoir des ex-académiciens qui travaillent avec nous dans la programmation de l'académie qui se déroule là, présentement.
Vous savez, en fin de secondaire, on est en plein questionnement sur... si on veut prendre nos sciences, quel programme au cégep, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Donc, ça m'a juste vraiment donné la motivation à comme faire plus de recherches dans le domaine de la santé, puis aussi de juste comprendre un peu mieux le quotidien des professionnels.
C'était comment l'atelier d'intubation?
Malade.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Non, bon, on a pratiqué comment rentrer des tubes pour favoriser les cordes vocales. Enfin, rentrer de l'air dans les cordes vocales quand un patient est inconscient ou il y avait quelque chose de pris dans la gorge.
Ça va.
Puis est-ce que tu as un peu une idée là, de ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans quelques années?
Non, aucune idée encore, mais je vais ressortir de ça enrichi.
Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Michel.
On a parlé beaucoup des feux de forêt du côté de l'Europe récemment, mais là, du côté de la Californie, il y en a un qui fait particulièrement les manchettes.
Ah oui, le Oak Fire, un méga feu là, en Californie, avec une progression hyper rapide. Il y a 6800 hectares qui ont déjà brûlé pour l'instant. Et Michel, 2500 pompiers qui sont mobilisés là-bas, mais l'incendie est loin d'être contrôlé. On a contrôlé 10 % des flammes pour l'instant. Puis, il est alimenté beaucoup par le fait qu'il y a eu de la sécheresse en Californie aussi depuis très longtemps. Et donc, il y a un manque d'eau également. Donc, c'est bien des défis. Et il y a même le parc national Yosemite, qu'on connaît bien, qui est menacé par cet incendie-là.
Oui, la Californie qui brûle encore cet été. On se transporte maintenant du côté d'Haïti. On sait que depuis un an, c'est vraiment de l'instabilité, violence avec les gangs de rue. Mais là, il y a un rapport vraiment frappant de l'ONU qui a été publié aujourd'hui.
Ah oui, dévastateur, qui nous dit que en raison de ces violences-là, des gangs de rue, il y a eu 471 personnes tuées, kidnappées ou blessées en seulement une semaine, entre le 8 et le 17 juillet. On va en parler avec Étienne Côté-Paluc, un journaliste qui est à Port-au-Prince.
On regarde ça à 22 h. Bonne soirée. Absolument. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Excellente soirée. Regardez le fil 22. On se retrouve demain à 17 h 30.